Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info, de ce lundi 23 décembre 2013, avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Ben, tout d'abord, en ouverture, je voulais vous souhaiter un bon solstice d'hiver. En effet, il ne vous a pas échappé que cette histoire de petit Jésus né un 25 décembre est une fable débile. Historiquement, il se trouve que les curés au 6-7e siècle, se rendant compte que les gens fêtaient le solstice, fallait absolument faire quelque chose pour récupérer tout ça à leur profit. Et d'inventer, avec une légère erreur de date de quelques jours, la naissance du petit Jésus pour le 25. Heureusement, le temps passant, le Père Noël est un peu venu écrabouiller la crèche, même si c'est au profit du petit et du grand commerce, autre veau d'or. Voilà, après ce préambule, ben nous allons aborder l'actualité internationale et puis nationale, mais tout d'abord, Robert, as-tu un sujet pour ouvrir ce journal ?
Oui, peut-être pointer du doigt la presse occidentale, et notamment française, qui finit par se ridiculiser à vouloir faire de Khodorkovsky, Mikhaïl du prénom, un martyr de la liberté, alors que cet oligarque russe, qui vient de purger 10 ans de prison, avait été pris la main dans le sac, c'est-à-dire au lendemain de l'Union soviétique, il avait largement puisé dans ce qu'étaient les caisses du socialisme décadent à l'époque pour constituer peu à peu une belle fortune utilisant tous les moyens que lui laissaient Eltsine et les prédécesseurs à Poutine pour mener à bien cette opération de captation du capital. Mais voilà, parce que finalement, Poutine est un homme peu apprécié en Occident, et notamment en France, eh bien, pour justifier l'antipoutisme, il faut faire de Khodorkovsky un héros national de la liberté et de l'indépendance et de tout ça. C'en est relativement ridicule. Et d'ailleurs, dans la foulée, Khodorkovsky donc a été gracié. Et puis les Pussy Riot, les deux jeunes femmes qui avaient chanté. Bon, on dit que c'est parce qu'elle avait chanté une chanson anti-Poutine, c'est surtout parce qu'elle avait chanté dans une église et que finalement, là, effectivement, la justice avait plus subi l'influence de l'église orthodoxe russe dans cette affaire pour que ces jeunes femmes soient condamnées. Ça n'était pas tellement l'attaque de Poutine, mais c'était le fait de l'avoir fait, donc, dans une église orthodoxe. Toujours est-il qu'elles sont, elles aussi, depuis aujourd'hui, suite à une décision du Parlement. Là, ça n'est pas une décision directe de Poutine. Elles sont donc en liberté. Alors, évidemment, les médias et les hommes et les femmes politiques occidentaux s'empressent de dire que Khodorkovsky, comme les Pussy Riot, vont devenir effectivement des militantes courageuses et puis très très volontaires pour poursuivre la lutte contre ce tyran de Poutine qui leur a causé beaucoup de mal, puisque ces personnages vont se consacrer à la défense des droits des emprisonnés politiques. Alors certes, on peut considérer qu'il y en a en Russie, qu'effectivement, la justice n'y est pas aussi soft que dans l'Occident, bien qu'on pourrait toujours argumenter que beaucoup de gens qui sont en prison en France, eh bien c'est souvent parce que ils étaient pauvres, qu'ils ont volé, et que évidemment c'est, on peut pas dire que c'était un geste politique au sens on va dire noble entre guillemets du terme, mais souvent ça veut dire quand même que parce qu'il y a effectivement de profondes injustices. Des gens se servent et effectivement ne le font pas au terme d'une bataille politique. Mais il y a des prisonniers politiques en ce sens-là aussi en France. Bon, il y a, sans parler par exemple des détenus basques, des détenus corses qui aussi, de leur point de vue, menaient des combats politiques. Voilà ce qu'on pouvait aussi peut-être signaler en cette fin d'année.
On peut quand même ajouter que si Poutine se contorsionne comme ça, c'est quand même sûrement pas étranger à la proximité des Jeux Olympiques en Russie dans un mois.
Oui. Encore que Khodorkovsky lui-même a dit que il ne fallait pas boycotter les Jeux de Sochi. Bon, je pense pas qu'on l'ait obligé à dire ça, d'autant qu'il est en Allemagne, il peut dire ce qu'il veut maintenant. Simplement, bon, il pense que c'est pas forcément une bonne méthode de faire passer une bataille. D'autant qu'effectivement, sur le problème effectivement de l'homosexualité difficile à vivre en Russie, on sait que la loi russe, elle ne dit pas que c'est interdit, elle dit simplement que la propagande auprès des jeunes de moins de 12 ans en faveur de l'homosexualité est interdite par la loi. Mais bon, effectivement, on peut dire que ça permet sans doute effectivement des dérapages autour de l'application de cette loi. Mais moi, je vois un homme qui finalement est bien seul dans la bataille anti-Poutine, puisque bon, les Allemands, avec le grand chef en tête, vont être à Sotchi, alors que Hollande n'y sera pas. Et bon, il a dit qu'il a bien fait comprendre, sans le dire vraiment, que c'est une manière pour lui d'exprimer ce qu'il pense de la situation de la liberté en Russie. Alors, bon, Fabius va y aller, ou peut-être même pas Fabius, on ne sait pas. Mais dans cette affaire, finalement, Hollande paraît bien isolé.
Voilà, autre sujet, on se tourne vers l'Afrique ou tu veux...
Ou comme tu veux, oui. C'est sans doute en Afrique.
Ah ben, on peut dire encore un mot de l'Ukraine, puisqu'on était avec la Russie, c'est pas loin. Donc il semblerait que le mouvement pro-européen en Ukraine se fatigue. Beaucoup moins de militants, de manifestants hier dans la rue, on parlait de 15 000. Et puis peut-être que les accords finalement signés avec Poutine la semaine dernière ont un peu apaisé les opposants, puisque la Russie octroie un prêt avantageux de 15 milliards d'euros à l'Ukraine et surtout la réduction du gaz. Enfin, ce n'est pas vraiment un cadeau parce que en guise de pénalité, le gaz en question avait été augmenté de 30% il y a un an ou deux. Hein. Et puis maintenant, ben, on rebaisse le gaz de 30%. En tous les cas, ça satisfait beaucoup les industriels et les particuliers. Donc peut-être qu'avec ces annonces, ça va pour le moment calmer le mouvement qui n'ira pas plus loin, même si, on le sait, il reste une partie de la population qui souhaiterait s'élargir de l'influence russe dans le pays.
Ben oui, c'est ce qui faisait aussi, on va dire, au niveau institutionnel, qui alimentait la campagne de l'opposition, c'était... le symbole d'une signature d'entrée dans l'union douanière telle que les Russes l'ont mise en place. Or, il n'en a pas du tout été question et pour l'instant, ça reste un dossier qui est certes ouvert, mais qui, d'un certain point de vue, n'offre pas la possibilité du combat qui a été mené par l'opposition. Une opposition dont il faut rappeler aussi qu'elle s'est trouvée débordée par une espèce de réminiscence d'une extrême droite fascisante qui puisait loin de ses racines dans l'histoire de l'Ukraine. Et on avait vu ce parti nationaliste fascisant s'installer presque à la tête des manifestations. Et ça, visiblement, ça ne correspondait pas du tout à l'ensemble, effectivement, du mouvement de ceux qui, et notamment les jeunes, bon, ils regardent vers l'Ouest, ben, parce que d'abord, ils ne connaissent peu de choses de l'histoire. C'est un mouvement naturel qu'ils aient envie effectivement aussi bien de regarder. Ils connaissent, on leur a dit ce que c'était à l'Est, avec beaucoup d'erreurs au passage, mais l'Ouest étant une inconnue, on comprend que beaucoup de jeunes ont envie d'aller faire un tour.
Ouais, on se tourne un petit peu vers l'Afrique, avec la République centrafricaine. Des nouvelles de nos piou-piou, les choses ne se passent pas aussi bien sûr, qu'on pouvait l'espérer, mais en même temps, on pouvait aussi s'attendre à des évolutions et des choses imprévisibles, à savoir que les Français militaires rencontrent de plus en plus d'opposition dans la population, puisqu'ils sont maintenant au cœur de l'affrontement entre population musulmane et population chrétienne, les unes et les autres ayant leurs milices. Et il semblerait que la mort de 3 militants du CDK hier ait engendré des milliers de manifestants pro-musulmans qui ont des slogans sans ambiguïté, non à la France, Hollande criminelle, donc qui réclament le départ des Français. Les Français, bien sûr, qui ne sont pas là pour repartir tout de suite, ils risquent même d'y rester plus longtemps qu'ils le croyaient. Et bien, c'est clair que les milices, qu'ils pensaient avec un peu d'optimisme s'être barrées spontanément devant l'arrivée des militaires français dans le nord du pays, s'il y en a quelques-unes qui l'ont fait, d'autres sont restées en place et n'ont pas du tout envie de se faire désarmer, ni les unes ni les autres, puisqu'on est au bord d'une guerre civile entre les communautés entre guillemets chrétiennes et musulmanes, et que dans ces conditions, les uns comme les autres ne veulent pas se désarmer, craignant d'être exterminés. Donc, situation qui va perdurer avec l'appui demandé maintenant de militaires africains, qui d'ailleurs posent aussi problème, puisque les militaires tchadiens sont accusés par la population d'être de partie prenante face à l'une ou l'autre des parties. Donc leur neutralité n'est pas considérée par la population comme acquise d'emblée de jeu. On voit, ça nous laisse de présager de nouvelles péripéties. Voilà, tu voulais en dire plus là-dessus ?
Non, je pense aux pays voisins du Soudan qui, se souvient de, là encore, des déclarations relativement irresponsables des Occidentaux et notamment des Français qui saluaient la naissance de ce Sud-Soudan. Au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom des grands principes qui nous gouvernent. Et aujourd'hui, on voit que la situation n'est pas du tout semblable à ce qu'était, ce qui se disait à cette époque de création de l'État du Soudan Sud.
Il faut dire aussi quelques mots du Niger, où c'est assez singulier, mais ô combien normal. Des manifestants descendent dans la rue pour protester contre la négociation en cours du nouvel accord avec Areva. Areva, donc, c'est les extracteurs d'uranium dans le pays. Et que demande la population ? Eh bien, elle réclame une meilleure répartition des profits entre les industriels français et leur pays. Il suffit de considérer par exemple le chiffre d'affaires d'Areva, qui est deux fois et demi le PIB du Niger. Et en plus, il y a des lois de répartition qui ont été définies, des règles dans les plus-values des mines extorquées, et elles ne sont même pas respectées. Donc on est pour le moment dans une perspective de prolongation des négociations pendant 2 à 3 mois, mais la population réclame son dû dans cette extraction de minerais du pays, de la richesse nationale. Voilà, tu voulais parler d'un autre sujet ?
Oui, je vais... On remonte un petit peu vers le Moyen-Orient, notamment la Syrie. Et bon, maintenant, on a un peu plus, et presque jour après jour, il se confirme que les Américains dès le départ de ce qui a été le bombardement des populations civiles au gaz sarin, les Américains, on se souvient, avaient été beaucoup plus prudents dans leurs commentaires et surtout de la riposte à opposer au régime barbare syrien, alors que Français et Britanniques voulaient, les gouvernements de ces deux pays voulaient absolument tout de suite en découdre avec Bachar el-Assad. Se confirme que en fait le gaz sarin est aussi entre les mains de Nosra, le groupe le plus dur des islamistes, qui d'ailleurs est en passe de s'imposer au sein de la riposte au gouvernement syrien, et qu'il n'est pas impossible que Nosra l'ait utilisé dans une grande opération qui effectivement lui permettait ensuite de faire que ça déclenche au plan international une mobilisation et puis une intervention militaire globale en Syrie. Et donc les Américains ont été tout de suite, tout de suite au courant par des sources très sûres que effectivement le gaz sarin était entre les mains également des groupes Nosra, et qu'en conséquence plutôt que de renouveler l'affaire des armes de dissuasion massive irakienne, eh bien, on préférait temporiser aussi longtemps qu'il n'apparaîtrait pas que ce sont bien les Syriens, le gouvernement syrien, qui les auraient utilisés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est toujours dans l'incertitude, on ne sait toujours pas qui les a utilisés.
Par contre, aujourd'hui, il semble que du côté d'Alep et de Homs, l'armée syrienne reprend l'initiative et attaque avec des moyens considérables sur les centres-villes afin de soit faire fuir les populations, soit pénaliser les populations qui soutiennent les rebelles, envoyant des barils d'explosifs sur les villes, ce qui tue bien sûr quelques combattants qui se trouvaient là, mais aussi pas mal de civils qui résidaient à ces endroits.
Donc, j'avais lu des commentaires qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de barils ? Bon, je ne sais pas si c'était une arme de guerre, le baril. Je connaissais le baril de pétrole, mais je veux dire que l'armée syrienne peut effectivement démolir sans utiliser ce qui ressemblerait plutôt à une arme du 15e siècle.
Ah, c'est pas évident techniquement que ça n'est pas son intérêt.
Peut-être, oui.
Regarde, rappelle-toi le napalm qu'on a beaucoup utilisé, les Français aussi. C'était des barils.
Et comment il était déversé?
Ah, des barils qu'on versait depuis les avions, avec un inflammatoire. Enfin bon, tout ça, ça demande à être...
Oui, tout ça, hélas, ça ne fait pas effectivement la paix en Syrie, oui.
Voilà. Dans la même région, la Turquie, avec cette information qui met sous pression le Premier ministre Erdogan, sa corruption étant passablement dénoncée, lui, il riposte en déclarant qu'il voit là la main de l'étranger, et il convoque les ambassadeurs occidentaux au titre de provocateurs dans ses dénonciations dont lui et son système seraient la victime. Pendant ce temps-là, dans le même secteur, en Égypte, le nouveau régime a de nouveaux ennemis, après avoir eu les islamistes qu'ils ont virés du pouvoir. Les voilà qui maintenant s'en prennent avec des nouvelles lois contre les opposants, les manifestants, et du coup ce sont les laïcs qui font les frais de ces lois imposées par le nouveau régime, avec trois activistes qui sont condamnés au titre de manifestation du 25 novembre 2011. Donc le régime s'isole ainsi un peu plus de la population, qu'elle soit pro-musulmane ou anti-musulmane, on veut dire. Ce système pro-militariste retrouve sa place en Égypte. C'est un peu le retour du système Moubarak et également des hommes du système Moubarak, ce qui n'a rien de très enthousiasmant pour l'avenir.
Si on remonte un peu jusqu'aux rives méditerranéennes, bien que la Turquie en fasse partie, naturellement, on voit que les pays du Sud, qui connaissent le plus fort taux d'austérité, on passe par là la Grèce, Portugal, Espagne, et puis l'Italie aussi, qui connaît d'énormes difficultés par rapport à cette question de l'austérité, c'est-à-dire baisse des revenus, baisse des allocations des retraites, chômage naturellement, chômage massif, eh bien. Des manifestations ont lieu presque, on ne va pas dire quotidiennement, mais des manifestations se poursuivent. Et pendant ce temps-là, eh bien, les chefs d'État européens, ou leurs ministres des Finances, quand ils se retrouvent à Bruxelles, ils pondent une union bancaire, mais une union bancaire qui finalement est, on va dire, d'être un peu aux conditions de Berlin, c'est-à-dire la poursuite de l'austérité, le refus de mutualisation européenne, et on savait que c'est avec la mutualisation, c'est-à-dire accepter d'une certaine manière que bien les pays les plus riches aident les pays les plus pauvres dans cette Union européenne. Sachant d'ailleurs que les pays les plus riches, comme comme l'Allemagne, auraient tout à y gagner, parce que si ces pays pauvres peuvent à nouveau avoir des moyens d'acheter, eh bien, le commerce extérieur florissant de l'Allemagne de l'Allemagne pourra se poursuivre sans problème. Il y avait peut-être un autre problème qui est surgi et qui est d'une grande violence réactionnaire, c'est à propos de la loi sur l'IVG en Espagne, je crois.
Ah oui, en Espagne, ça c'est incroyable. Elle datait pas de si loin que ça. Hein. C'est Zapatero qui, en 2010, avait fait voter une loi qui autorisait l'IVG jusqu'à 14 semaines, puis 22 semaines dans des cas de médicaux. Là, c'est la pression à la fois du parti de droite, le Parti Populaire, et de l'Église, qui reviennent en force aussi d'ailleurs, pour mettre en place une loi d'interdiction de l'IVG pratiquement, puisqu'il va falloir avoir été violé ou avoir subi je ne sais quelles conditions pour autoriser, avoir droit à une IVG dans des conditions restrictives. Donc si on ajoute que en 2011, par exemple, il y a quand même eu 120 000 IVG en Espagne, c'est-à-dire que c'est un problème social considérable pour la population, féminine d'abord. Cette interdiction pure et simple est tout à fait scandaleuse, catastrophique. Là aussi, on a des lois européennes qui, pour le poignon, pour le déficit budgétaire, là, il y a des règles intangibles, mais sur des règles comme ça, l'Europe n'est pas capable de faire respecter une position commune, et je pense qu'on va accepter sans sourciller cette restriction. Donc 120 000 femmes espagnoles vont devoir venir en France ou ailleurs, en Angleterre, etc., pour avoir les IVG auxquelles elles aspirent et auxquelles elles ont droit. En dire un mot peut-être aussi, puisqu'on est dans l'Europe, de la fameuse union bancaire. Vous savez que les banquiers là, ont dansé la danse du scalp à la fin de la semaine dernière, encouragés par Moscovici et par Barnier. Hein. Moscovici, c'est un accord historique, Barnier, c'est un changement révolutionnaire. Alors qu'est-ce qu'on a changé dans l'union bancaire ? En fait, il s'agissait théoriquement, de mettre en place un dispositif qui fasse que, en cas de faillite bancaire, ben, ce ne soit plus le malheureux contribuable, vous ou moi, avec notre TVA à 20-10% ou 20,6%, qui paye les frais, mais bien les responsables disent, eh ben, il n'en sera rien du tout. Il n'en sera rien du tout parce que les règles qu'on a mises en place sont dérisoires. Par exemple, on crée un fonds européen de résolution des crises. Ah oui, ça c'est bien. Alors quand une banque sera en crise, elle va pouvoir faire appel au fonds. Ouais, vous savez ce qu'il y a dans le fonds ? Il n'y a rien du tout. Il y aura 60 milliards. Oui, mais dans 10 ans. D'ici là, il peut y avoir pas mal de crises. Par exemple, les actifs de la BNP, si jamais, supposons que la BNP fasse faillite, vous savez combien ça représente ? 2 000 milliards. Alors, les 60 milliards du fonds de résolution, c'est peanuts, hein ? Rien que Dexia. Dexia, la fameuse banque franco-belge qui a foutu toutes les communautés urbaines dans la panade, et la nôtre aussi d'ailleurs, 80 milliards ont été provisionnés par l'État français. Où il les a pris, les 80 milliards ? Dans votre poche, dans la poche des chômeurs, des retraités, de toutes les réductions qu'on connaît depuis des mois, puisque paraît-il, il faut équilibrer les comptes. Pourquoi ? Pour pouvoir financer les pertes de Dexia à hauteur de 80 milliards. Sans compter que Dexia continue d'extorquer des sommes hallucinantes aux communautés urbaines qui ont souscrit ces emprunts. Alors, il y en a d'autres comme ça. Hein. Le Fonds de résolution nationale, puisque la France aussi, il va de son aide, de sa son organisation d'un fonds pour faire face à des crises, elle a prévu de mettre 2 milliards d'euros pour le moment. Je vous rappelle, hein, BNP, les actifs, 2 000 milliards. Avec ça, je ne sais pas qui on va sauver. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va l'augmenter, le fonds. Oui, 20 milliards dans 10 ans. D'ici 10 ans. Hein. Enfin, il y aurait beaucoup de mesures comme ça à commenter. On peut en citer encore une. Par exemple, le créancier d'une banque, on peut penser qu'il pourrait être appelé à financer tout le déficit de sa banque. Pas du tout. Il ne peut pas être mobilisé au-delà de 8% du passif. Alors, qui va payer le reste ? Eh bien, c'est les États. C'est donc le contribuable. Voilà. Alors, si on appelle ça une union bancaire et un grand succès historique, eh bien, bonjour les dégâts. Et donc, on continue comme avant. Rien ne change, si ce n'est un peu de communication et d'entourloupe pour les citoyens, pour qu'ils votent bien d'ici quelques mois. Robert, as-tu une autre info avant qu'on fasse notre pause musicale ?
Peut-être 2014, simplement pour dire chiche, chiche à Monsieur François. Monsieur François, c'est le pape des catholiques. Hein, et il est accusé d'avoir des tendances marxisantes. Alors il dit que non, mais qu'il connaissait beaucoup de marxistes et que c'était des gens très bien. Que lui n'était pas marxiste, mais il était quand même scandalisé par le fait que quand il y a des profits financiers, eh bien les profits vont toujours du même côté. Et il avait cette magnifique, presque une parabole biblique du verre. Un verre, bon, on le remplit de profits. Et quand ça déborde, normalement, ça devrait aller vers les plus pauvres et ceux qui sont dans la misère. Et bien pas du tout, parce qu'il dit à ce moment-là, curieusement, le verre s'agrandit et du coup, ça ne déborde jamais. Et voilà, donc, et on va dire chiche, monsieur François, 2014, eh bien, allez jusqu'au bout de votre pensée.
Oui, M. François, il continue de faire la quête et il n'a toujours pas fait le ménage dans la Banque du Vatican et dans ses paradis fiscaux. Double langage chez tous les dirigeants, chez le pape aussi, pourquoi pas. Allez, pause musicale avec Alain Leprest qui vous souhaite, de là où il est, un joyeux Noël.
Quand tu descendras la poubelle, n'oublie pas de prendre le courrier. Peut-être que le chômage est arrivé. Petit Papa Noël, ce soir j'ai les boules de Noël, couvert de neige artificielle. J'ai froid tout au fond de la moelle. Y'a les radiateurs qui battent de l'aile. Si ça continue, je vais boire de l'antigel. joyeux Noël, joyeux Noël, petit Papa Noël. Tu sais, le gamin s'est fait la paire, je sais pas qui se fait la mère, mais ramène une jeune fille au père, petit Papa Noël. Sur ma crèche, il y a les scellés, des guirlandes en fil barbelé, puis des conneries à la télé. J'ai mis mes sabots au congélateur, la voix de Tino sur le répondeur. Joyeux Noël, joyeux Noël. J'ai pas envie d'aller au lit, tout seul comme un vieux confetti. Je voudrais m'envoler comme E.T. Plus rien à fumer, y'a plus un mégot. Je roule les épines dans le papier cadeau. Joyeux Noël, joyeux Noël.
Pour l'interprétation, mais c'est pas lui qui a écrit le trick, c'est Rémi Tarrier sur une musique de Claude de Préac. Vous écoutez Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 23 décembre 2013 et dernier de l'année pour les Canu Info du lundi, puisque lundi prochain, sauf changement de dernière minute, nous ne serons pas présents. Rendez-vous en 2014. Donc. Mais nous allons aborder la fin de l'actuel de l'année 2013 avec l'actualité politique des nouvelles du Front de Gauche, Robert.
Oui, qui sont pas forcément très, 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 très bonnes. Et ce n'est qu'un euphémisme. Le Front de Gauche, tout simplement, parce que les éléments de distorsion entre le Parti de Gauche et le Parti communiste, eh bien, sont assez nombreux et voire assez graves. Bon, il y avait cette affaire concernant la conception du combat au municipal, où effectivement le Parti de Gauche prônait l'autonomie et le Parti communiste prônant le pragmatisme. Et puis il y a eu cette affaire de Paris où effectivement il y a eu cet accord au sommet entre le Parti communiste et le Parti socialiste, effectivement, qui avait donc jeté un froid à l'intérieur du Front de Gauche. La semaine dernière, le début de cette semaine aussi, c'était la semaine dernière, il y avait le congrès du Parti Gauche Unie Européenne. C'est-à-dire, c'est pour l'ensemble, c'est la gauche de gauche qui peut exister, avec l'appui d'ailleurs d'écologistes au Parlement européen. Et voilà que ce congrès a conduit au renouvellement sans changement à sa direction, c'est-à-dire que c'est Pierre Laurent qui reste président du parti de la gauche européenne, et donc le parti de gauche. Le PG français, lui, espérait peut-être avoir le fauteuil, mais ne l'a pas eu. C'est une direction collective au parti de la gauche européenne, qui d'ailleurs va proposer comme candidature à la prochaine élection à la tête de la Commission européenne, le représentant de Syriza, le parti le plus à gauche, on va dire, de Grèce. Donc, deuxième problème important entre le parti de gauche et le parti communiste français. Et puis, par exemple, ce soir, on a appris que le parti de gauche appuyait le mouvement de contestation, bien qu'il le faisait déjà, mais il était là-dessus, il avait pris une position assez à la fois, on va dire, souple. En politique, le mot souple a un sens, sur la dénonciation du projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et cette fois-ci, le parti de gauche annonce qu'il le dénonce comme du Gengabji, quelque chose de pharaonique, qu'il faut absolument empêcher la réalisation, alors que le parti communiste, là-dessus aussi, a une position pragmatique, c'est-à-dire que il dit, il y a des petits problèmes, mais bon, l'emploi quand même, faut penser à l'emploi, bon, c'est une position assez traditionnelle. Donc voilà un parti de gauche, un parti communiste qui, visiblement, bon, ça va pas bien. Alors entre les deux, il y a le regroupement des petites formations, qui sont également Front de Gauche, et qui s'appelle maintenant Ensemble. Alors effectivement, le mot Ensemble prendrait tout son sens si effectivement cette troisième composante représente une petite minorité pouvait empêcher, on va dire, que le fossé s'aggrave entre les deux grandes formations et que ça mette en cause l'ensemble de l'existence même du Front de Gauche. Et d'ailleurs, alors c'est écrit Clémentine Autain, qui est porte-parole d'Ensemble, qui d'ailleurs fait dans une déclaration reprise d'ailleurs par l'Humanité, il faut essayer de surmonter ces contradictions, il faut vivre avec, il faut les surmonter, il faut se rappeler que le Front de Gauche a un bon programme qui s'appelle L'Humain d'abord, et que ce programme a connu un grand moment et lors de l'élection présidentielle, et qu'il ne faut non seulement il faut pas l'oublier, mais il faut travailler dans ce sens-là.
Voilà, la division.
Voilà pour cette situation. Alors je crois que de toute façon, à la limite, ça nous est un peu égal, ça nous concerne moins, on dira, mais à droite, ça va pas très fort à Paris non plus.
Non plus, division légère à gauche, mais division très forte à droite, avec NKM qui perd, prend garde à droite, perd, prend garde à gauche. À droite, comme elle a jamais voulu prendre position claire entre Copé et Fillon, tous les deux lui balancent des bâtons dans les roues, d'autant plus qu'elle y met du sien en n'ouvrant pas les portes assez largement aux supporters de l'un ou de l'autre. Du coup, elle se récupère dans certains arrondissements une liste à sa droite, donc qui va lui faire de la concurrence. Et puis à sa gauche, une gauche toute relative, l'alliance avec l'UDI, avec Bayrou et Borloo, était faite sur des bases bien précises qui ne sont pas respectées non plus dans la constitution des listes. Bayrou étant, semble-t-il, un peu favorisé par rapport à Borloo. Du coup, Borloo, pas content, se fâche et décide lui aussi de mettre des listes centristes en face de NKM. Bon, ben on lui souhaite de bien s'amuser avec tout ça, et ce qui prouve bien que la droite n'est pas du tout unie, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire à longueur d'antenne. Passons.
Oui. Au plan social, on a entendu cette semaine, et ça s'est passé au tribunal de commerce de Lyon, qu'une solution toute provisoire sans doute, mais une solution qui permet de poursuivre les activités chez Kemwon, puisque la décision a été prise de refiler les clés à un certain Alain de Krasny. Alors, tombé du ciel, avec ou sans parachute, mais pas beaucoup de parachutes dorés. Ce Alain Krasny est un ancien cadre de Rhône-Poulenc, qui s'est construit une petite autorité industrielle. Il a une entreprise en Autriche, et puis il a également des participations dans d'autres entreprises en Allemagne. D'ailleurs, là-dessus, on a des inquiétudes, parce qu'en Allemagne, il est dans une entreprise qui connaît des gros problèmes actuellement. Toujours est-il que c'est ce Alain de Krasny qui, donc, va faire vivre Kem One. Et il met peu d'argent, mais il semble que le seul fait qu'il soit là va permettre que partout ça se débloque, à commencer par la France avec sa banque d'investissement, et puis les grands de la pétrochimie vont mettre de l'argent, alors à la fois comme client ou comme fournisseur, on ne sait pas trop, tout ça c'est pas clair. Et ce que l'on redoute un peu, c'est que ce de Krasny, sans être un escroc comme a été l'américano-suisse Gary Klesch, finalement, conduisent aux mêmes impasses que ce dernier. Et l'inquiétude est forte, malgré l'impression qui est donnée aujourd'hui que les emplois, plusieurs milliers, vont être dans les médias sauvés. Mais on n'a toujours pas la confirmation que Gary Klesch allait effectivement restituer ce qu'il a été promis, une partie de l'argent qu'il a soutiré, qu'il a siphonné, c'est le mot qu'on emploie, qu'il a siphonné chez Kem One, et qui est planqué à Londres, naturellement à Londres. Et pour l'instant, il s'était engagé moralement à la restitution dès que l'affaire repartirait, mais on n'en a aucune preuve que ça se fera. Et d'ailleurs, il vient de se déclencher ici, pas très loin dans le sud-est, à Roussay, petite ville des Alpes, non, je crois que ça doit être dans les Bouches-du-Rhône, une entreprise s'appelle Elfoundry qui faisait des composants électroniques et qui vient de déposer son bilan. 600-700 personnes concernées, rien qu'en emploi direct. Et là aussi, il semble que c'est une entreprise qui est passée entre les mains de plusieurs patrons européens. Et actuellement, cette entreprise qui s'appelle Elfoundry a été siphonné et que une partie des capitaux sont actuellement planqués à Londres, ce qui effectivement pose un certain nombre de problèmes, y compris par rapport à la présence de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Ah oui. Voilà pour ces problèmes qui sont ceux récurrents des conflits et des plans sociaux en France et que visiblement ne sont pas pris à hauteur des responsabilités aussi bien par Hollande, Hérault et le fou chantant qui s'appelle Montebourg qui visiblement est dépassé par tout ça.
Eh bien, il aurait quand même mis 128 millions dans l'affaire Kem One. Le repreneur Krasny aurait mis 10 millions. Il a carrément déclaré qu'il rêvait de venir relancer une entreprise en France. Ben, son rêve est exaucé, on va voir ce qu'il en fait. Mais la chimie, c'est aussi Total, et à l'heure qu'il est, la plupart des raffineries Total sont à l'arrêt, en grève. Les salariés en ont marre de voir les profits des actionnaires augmenter dans des proportions faramineuses et leur salaire ne pas bouger. Donc pour le moment, la grève est maintenue dans un certain nombre de raffineries. L'étape ultime, si le mouvement continue, c'est bien sûr les difficultés d'approvisionnement. Je pense que les raffineurs comptent là-dessus pour mettre la pression et obtenir quelque chose. D'autres annonces sociales pas joyeuses, c'est la SNCF qui, depuis qu'elle est privatisée, ne supporte pas évidemment de ne pas faire de profit. Et 10% de rentabilité ne suffit pas aux actionnaires de la SNCF. Donc du coup, on annonce qu'on va virer 1500 salariés en 2014, 1% de la masse de travailleurs. Et au prétexte que le TGV ne rapporte plus assez. Enfin, tout ça, c'est de l'enfumage, parce que si on raisonnait en termes de services publics et qu'on regardait un peu les choses autrement, on peut penser que la SNCF, avec les services de transport qu'elle rend justifie amplement que son compte soit équilibré, fût-ce avec un complément de l'État, supposé que ce soit nécessaire. Ben évidemment, si c'est pour engraisser des actionnaires qui vont les planquer dans les paradis fiscaux, on ne voit pas pourquoi on donnerait 20% de rentabilité à la SNCF. Voilà, tu avais les sages-femmes donc continuent leur grève, Assemblée générale à Paris, la ministre demande encore des négociations pendant 2 mois, du coup, la grève est reconduite. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait dire ? Ben oui, bien sûr, il y a le dernier Conseil des ministres avec une affaire un peu embrouillée, mais semblerait que les policiers en ont pris à leur aise avec la surveillance, ce qu'on appelle la géolocalisation, c'est-à-dire la possibilité de savoir où est un téléphone portable à peu près à tout moment. Et ça les arrange bien pour certaines enquêtes. Du coup, ça contrevient à des directives de la Convention européenne des droits de l'homme et le gouvernement se trouve un peu piégé. Donc, est en train de mettre, c'était à l'ordre du jour du Conseil des ministres aujourd'hui, un projet de loi pour autoriser les OPJ à lancer ces enquêtes et enfin redonner le droit de suivre les portables, quitte à faire valider au bout de 2 semaines par un juge, donc une procédure un peu juridique. Mais le problème, c'est que ça va mettre quelques semaines pour que le vote de cette nouvelle loi réglementation intervienne. En attendant, bien sûr, un certain nombre de procédures, paraît-il, sont bloquées. Et puis, il y a cette affaire du Conseil d'État qui remet en cause partiellement, on va dire, la directive Châtel sur la question du port du voile à l'école. Il ne s'agit pas des enseignants, il s'agit essentiellement des accompagnants, des moments accompagnants des sorties d'école qui pourraient, selon déjà l'avis de pas mal de parents d'élèves et d'enseignants aussi, très bien venir accompagner les élèves munis d'un voile. Et donc cela pourrait être toléré, même si la directive reste valable concernant les personnels enseignants. Enfin, un débat s'est engagé et le Conseil d'État, lui, a préconisé un peu de souplesse, ce qui, semble-t-il, était déjà en place dans la pratique quotidienne des enseignants.
Sur le plan de l'université, ça va de mal en pis, puisque plusieurs universités sont menacées de devoir déposer le bilan. Alors évidemment, ça paraît incroyable. D'ailleurs, ça ne se produira pas, mais rien que cet état d'esprit, à savoir que voilà, les universités vont peut-être, pour certaines, être en faillite. D'ailleurs, je crois qu'à Lyon, c'est le cas de Lyon 2, mais elle n'est pas la seule. Il y en a dans la région parisienne, et il y en a et dans d'autres secteur de l'Hexagone. Et ceci, effectivement, il faut se rappeler qu'il y a eu cette loi sur l'autonomie des universités qui, sous Sarkozy et ses ministres, devaient devenir des entreprises comme les autres. Presque, c'est toujours, enfin, je pense qu'on a même utilisé l'expression, c'est-à-dire se donner les moyens d'avoir des bilans. Alors, on ne demandait pas encore des bilans avec des résultats à 2 chiffres, mais au moins des bilans équilibrés. Or, service public, université, en bonne logique de l'éducation nationale dans ce qu'elle est, ne doit pas être contrainte de faire des bénéfices. Ça devrait être la logique d'un service public. Eh bien non. Du coup, le gouvernement, plutôt que de peut-être remettre en cause cette loi sur les universités et puis de reprendre l'autorité sur l'ensemble de l'éducation nationale, que ce soit depuis la primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, négocie, essaye de voir avec le MEDEF comment ça pourrait s'arranger, c'est-à-dire comment finalement le patronat va entrer un peu plus dans ce qu'est la définition d'un cursus universitaire. En contrepartie, les entreprises apporteraient de l'argent, comme elles le font déjà avec un certain nombre des grandes écoles. Et ça, c'est là encore une orientation, hélas, à déplorer du côté du gouvernement et de ses ministres. Alors, On s'étonne que Payon, qui est l'ardent défenseur de la bonne tradition de l'enseignement public et qui voudrait le prouver par ailleurs, eh bien, là aussi, il n'a plus visiblement sur ce dossier la parole, comme Montebourg, mais il laisse filer.
Un mot de la ZAD, alors Hérault a ses marottes, et ça y est, ça l'a repris, il a donc déclaré des arrêtés pour redémarrer les travaux. C'est une manière de stimuler la contestation anti-aéroport de Nantes, qui repart donc avec une nouvelle contestation de ces arrêtés, et une mobilisation, un appel à manifester forcément dans le secteur.
Je vois que les Bonnets-Rouches avec trois ADEC de Carex
vont pouvoir se remobiliser
à l'assaut du projet.
Voilà, culturel, évidemment, à part le réveillon du 25 décembre, il n'y a pas grand-chose. Tout de même, au Carré 30, Seasons of Love, c'est du théâtre, c'est les jeudis, vendredis, samedi à 20h30 et le dimanche à 17h30, cette semaine et la suivante. On arrive au terme de ce journal, on va terminer avec une bonne nouvelle, c'est Gaïa. Gaïa, c'est un satellite qui est envoyé aux confins de l'univers pour mesurer les étoiles et leur parcours. Ce petit satellite de rien du tout, qui coûte quand même, je ne sais plus la somme, 1 milliard d'euros, quelque chose comme ça, va observer 1 milliard d'étoiles qui vont être analysées 70 fois en 6 heures en faisant un tour, donc envoyer des sommes d'informations considérables. Et puis observer aussi et découvrir des centaines de milliers, peut-être des millions de planètes. Chacune de ces planètes, bien entendu, ayant son petit Jésus né le 25 décembre, comme chez nous. Nous vous souhaitons un bon solstice, on l'a dit, de bonnes fêtes. Et puis ce Canu Info sera réécoutable demain matin à 8h. Et vous pourrez le retrouver sur Internet aussi dès ce soir. Bonsoir. Thank you.